en entrant dans cet ordre, en 1505, le 17 juillet, Luther cherchait une chose, c'est être vraiment chrétien, être assuré de son salut, pas de compromis. Et alors la question qu'il se posait, comment puis-je être sûr de la miséricorde de Dieu? Donc, il entre dans son couvent, il prend sa vie de moine très au sérieux, mais les tourments apparaissent très vite et le maintient dans une sorte de désespoir constant. Alors il fait des mortifications, dès qu'il a des mouvements de colère, il croit qu'il va être damné, et je passe tout le reste. Et en plus, il est influencé par la théologie occamiste. C'est quoi cette théologie? Ce sera très bref. Le nominalisme, qui est la théologie de ce groupe-là, est très optimiste sur le plan scientifique, mais sur le plan spirituel, c'est Dieu qui décide. Alors Luther se dit, mais comment vais-je savoir que Dieu va me sauver? Je peux bien faire mes cours, être très intellectuel, mais est-ce que Dieu, dans sa liberté, va donner sa grâce à tout le monde? Et donc, il continue en disant, Dieu va-t-il accepter mes actions et mes efforts? Ou bien est-ce que je vais être rejeté? Et donc, Luther était dans un cercle infernal et il n'arrivait pas à en sortir. Il raconte ceci. Au couvent, dit-il, nous avions assez à manger et à boire. Et la conscience souffrait le martyre et les souffrances de l'âme sont les plus douloureuses. Il parle de sa conscience, évidemment. Alors, dit-il, j'ai souvent été effrayé par le nom de Jésus. Quand je le regardais sur la croix, je voyais qu'il était pour moi comme la foudre. Je ne songeais ni à l'argent, ni au bien du monde, ni aux femmes, mais mon cœur tremblait et s'agitait pour savoir comment puis-je me rendre Dieu favorable. Et puis d'ici, je n'avais pas été délivré au moyen de l'Évangile, je n'aurais pas vécu 2 ans. Et donc, d'une certaine manière, ces tourments ont été pour lui un stimulant pour chercher et aller plus loin. Et là, Staupitz l'a aidé. Je passe au point 3, Staupitz et Luther. Alors, Staupitz a enseigné la théologie, et on a gardé de lui que des ouvrages d'édification. La pensée est structurée, mais pas particulièrement originale. Alors, il explique à Luther que la grâce, c'est ce par quoi Dieu nous attire, nous fait trouver son plaisir en lui. Elle établit une habitation des 3 personnes en nous. Alors, dit-il, l'homme est capable de vaincre son égoïsme. La grâce est à l'origine de tout ce qu'on fait de bien. Et il y a même une certaine certitude, pas parce qu'on est mieux, mais parce qu'on peut être sûr que Dieu est fidèle. Ça, c'était l'idée maîtresse de Staupitz. Alors, le Christ là-dedans, c'est la révélation et le modèle de l'homme. Dans la mesure où on est conformé au Christ et à sa croix, on est sûr d'être au nombre des élus. Et on agira de façon normalement bonne. Donc c'est une théologie, celle de Staupitz, qui témoigne de la bonté de Dieu et de son propre néant. Et Staupitz va aider Luther à réfléchir dans ce sens. Il a dû prendre plusieurs décisions au sujet de Luther, l'admission au vœu, à la prêtrise, la nomination aux charges professionnelles, et il a séjourné plusieurs mois avec Luther dans la même maison à Wittenberg. Et Luther faisait confiance à son supérieur. Il s'ouvrait de ses difficultés et il savait que le supérieur faisait confiance à son enseignement. Il s'écrivait souvent. On n'a plus que 12 lettres de Luther à Staupitz et 2 de Staupitz à Luther. Mais l'influence de Staupitz sur Luther, numéro 4, a été très diversement évaluée. Selon certains auteurs, Staupitz a donné à Luther un apaisement partiel ou provisoire, passager, pas vraiment au fond de lui. Alors, voyons ça d'un peu plus près. D'abord, Staupitz, je suis au point 4, et c'est les 4 points où Luther aura été influencé par son professeur et par son maître de, de foi. D'abord, Staupitz a apaisé Luther sur le plan doctrinal. Pour autant que le plan doctrinal concerne l'expérience de Dieu. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Et il ne faisait pas de spéculation, Staupitz est ramené tout au Christ. Il avait une piété simple et il poussait Luther à voir le Dieu qui veut sauver. Il disait par exemple, c'est dans les plaies du Christ que nous devons trouver le sens de la prédestination. Donc, cette belle prédestination, n'importe comment, si nous regardons les plaies du Christ, nous sommes sûrs que nous serons sauvés. Et le Père dit, je vous donnerai le chemin pour venir à moi. Ce chemin, c'est le Christ. Et c'est ce que nous ne faisons pas toujours. C'est pour ça que nous sommes malheureux. Une deuxième remarque de Staupitz, il a aussi aidé Luther, parce qu'il avait une espèce d'atmosphère de sérénité, un homme calme. Il ne s'énervait jamais. Et les consolations étaient précieuses pour Luther, qui lui-même les transmettait aux étudiants qui avaient des problèmes. Mais Luther était troublé. Il avait toujours peur d'avoir fait un péché mortel, et donc d'aller en enfer. Et sa conscience scrupuleuse vivait dans des transes continuelles, et il croyait que c'était jamais suffisant les efforts qu'il faisait. Et c'est ça que Luther appelait tentation. Mais ça, Staupitz ne comprend pas. Il dit, mais si tu fais ton travail, si tu pries, si tu crois en Dieu, pourquoi penses-tu que tu as des tentations? Et Luther raconte ceci. Quand je m'adressais à un autre, c'était la même chose. Aucun confesseur ne voulait rien savoir. Alors je me disais, personne n'éprouve ces tentations. Un jour à table, j'étais triste et Staupitz me dit, mais pourquoi es-tu si triste? Et je lui répondis, que dois-je devenir? Vous ne savez pas combien cette épreuve, dit Staupitz, vous est nécessaire. Sans elle, vous ne deviendriez rien qui vaille. Et cette phrase fait réfléchir Luther. Et Luther dit, en fait, il pensait que j'étais savant et que sans la tentation, je deviendrais orgueilleux. Mais je songeais à la parole de saint Paul, dit Luther. Il m'a été donné une écharpe dans la chair, afin que je ne m'enorgueillisse point de ses révélations. La force du Christ s'accomplit dans la faiblesse. Et tout d'un coup, Luther est transformé. Je n'ai pas besoin d'être fort, je n'ai pas besoin d'être beau, je n'ai pas besoin d'être intelligent. Et si je suis faible, la force du Christ s'accomplit dans la faiblesse. Ce sera une parole qui sera reprise dans le protestantisme et encore toujours. Et donc, c'est un renouveau pour Luther, mais c'est surtout la présence et la sagesse de Staupitz qui le calmait. Mais Staupitz ne comprenait pas très bien Luther. Il pouvait indiquer une issue, mais il ne pouvait pas lui indiquer le chemin. Alors, la relation des deux moines était un petit peu marquée. Staupitz était un moine austère, plein de cœur. Il admire l'intelligence de Luther. Mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi ce qui lui donne la paix à lui ne donne pas la paix à Luther. Pourquoi ça ne passe pas? Et donc il y a ici, disent les auteurs que j'avais consultés, une importante clé de compréhension de Luther. Staupitz ne voit pas que son propre mysticisme est ressenti en contradiction avec l'idée de Dieu que se faisait Luther. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Luther avait besoin aussi d'être convaincu rationnellement. Et Staupitz ne lui demande pas de raisonner, mais de se laisser aimer. Et ça, c'est trop peu pour Luther. Il faut aussi qu'il puisse l'expliquer. Staupitz pouvait lui donner les fondements d'une théologie qui allait l'aider, mais tant que son idée fondamentale, qu'est-ce que Dieu, n'était pas claire, Luther ne pouvait rien faire. Alors, que fait Luther? Troisième point. Il fait des pénitences, il se dit, je ne fais pas cette pénitence. Et il voyait comme un combat des efforts à faire. Et donc quand il fait ses efforts, le dernier échelon, c'est l'amour. Et tout d'un coup, il comprend, en lisant une phrase que Staupitz disait à table avec les jeunes moines, la vraie repentance commence par l'amour de la justice et de Dieu. La Luther tout d'un coup comprend. Je ne dois pas d'abord être repentant, je dois d'abord aimer, et mon repentir viendra après. Et c'est pas idiot, parce que quand on est avec quelqu'un et que la personne sent qu'on l'aime, même si elle fait des bêtises, l'amour l'aidera à se convertir. Et c'est pas en faisant des dérèglements qu'on lui apprendra à aimer. C'est quand on se sent aimé qu'on arrive aussi à se corriger. Et Luther pensait que c'était le contraire. Alors voici ce qu'il dit. La parole que vous dites me semblait venir du ciel. Ce qui, selon les autres, constitue la fin et le comble de la pénitence, en est au contraire le commencement. Cette parole se fixa en moi comme la flèche aiguë d'un guerrier. Et je commençai à la comparer aux paroles de l'Écriture qui concernaient la pénitence. Et quelle ne fut pas ma surprise. De tous côtés, les paroles bibliques venaient confirmer votre opinion. D'abord aimer, d'abord la charité, d'abord le positif, pas le contraire. Elle vint lui sourire, dit-il, comme une ronde autour de lui. Et si jadis il y avait dans la Bible un terme plus amer pour lui que pénitence, maintenant la pénitence devient agréable parce qu'elle est la conséquence de l'amour. La pénitence, je vais faire des efforts parce que je suis aimée. Je ferai ça parce que j'aime. Et je pense que nous connaissons tout ça. On fait du bien à quelqu'un, on fait des choses qui nous embêtent quand on aime. Et Luther, tout d'un coup, comprend que c'est possible avec Dieu. Et donc, Stoppis lui donne quelque chose de très important, à savoir, avoir avec Dieu des rapports confiants, simples, et s'arracher à l'influence de Occam, qui séparait, Occam, c'est un théologien qui séparait la raison et les sentiments. Et c'est ça qui trouble Luther. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et donc, ça ouvrait tout d'un coup à Luther la possibilité d'un tout autre genre de spiritualité. Quatrième point. Luther savait alors que les théologiens qu'il suivait avant n'étaient pas infaillibles et que personne n'est porteur de l'unique piété chrétienne possible. Il y a des piétés chrétiennes possibles. Et ce que Stoppis a fait comprendre à Luther semble avoir suffi à résoudre sa crise spirituelle. Et c'est le pas qui va alors le conduire, ce qui caractérise le protestantisme, la justification dans les œuvres, pas dans les idées. La justification dans les œuvres. Et un auteur, Guillaume Van Massenhove, le dit ceci. Stoppitz aurait détourné Luther des considérations abstraites sur la prédestination et enseigné à se mettre personnellement avec confiance en présence de Jésus-Christ. Et surtout, il lui a expliqué que la vraie pénitence commence par l'amour de la justice et de Dieu. Vous voyez, ça n'est pas un sentiment. Luther, c'est pas un homme de sentiments. Donc il a ici une idée concrète qui l'aide à vivre autrement. Il faut savoir que l'époque où il vit, nous y viendrons après, est une époque très compliquée où les prêtres ne faisaient pas la messe, le pape était toujours absent, ils avaient des maîtresses, des enfants, c'était épouvantable. Donc il ne trouvait pas d'exemple dans l'église de son temps. Et alors il a compris, Luther, que la conversion, c'est quoi ? Et la conversion, c'est la confiance en Dieu. C'est ça la conversion. Et un Dieu qui, lui, s'abaisse vers l'homme. Pas un Dieu qu'on doit adorer, devant lequel on doit se mettre à genoux. Et alors, il va comprendre, dans ses études exégétiques, puisqu'il est toujours professeur, le sens original du mot pénitentia ou metanoia en grec, qui signifie changement de mentalité. Réorientation intérieure. Et vous devez savoir comme moi que c'est très difficile de faire changer les gens quand ils ont quelque chose dans la tête. Très difficile. Quand le débat se termine, ou la personne change, ou il n'y a rien à faire. Alors, un auteur dit ce que Stoppitz a apporté à Luther, c'est minimal. Et l'auteur que je cite, Van Massenhove, dit: comment peut-il dire une chose pareille? Comme si c'était rien, de jeter par terre toute la conception de la grâce et de la pénitence de son temps. Tout est renversé. Donc ce n'est pas rien, bien au contraire. Le cinquième point, ça va, je ne vais pas trop vite. C'est tout juste. Comment se fait-il que la brèche ait une telle portée, c'est-à-dire que Luther va quitter son couvent, il va fonder donc, le protestantisme, puis se marier. Alors comment se fait-il que la brèche ait une telle portée et que Staupitz n'a rien vu? Il ne s'est pas rendu compte. Et donc, il y a plusieurs explications. Je vous en donne quelques-unes. Donc, vous avez là dans le plan. La première, la piété de Staupitz ne correspondait pas au sentiment moral de Luther. Donc, Luther, c'était à la fois quelqu'un qui réfléchissait, mais qui agissait. Staupitz, c'est quelqu'un qui priait, pensait et puis réfléchissait. Et donc, Luther sentait trop la grandeur du péché pour accepter d'être imparfait. Et il voulait supprimer toute tendance au mal, car il pensait que même avoir une convoitise, c'était un péché. Avant sa conversion. Alors, Staupitz, lui, vivait de sa foi tranquille, et Luther était un chercheur. On dirait aujourd'hui un intellectuel. On a tous des élèves, des enfants, des amis qui sont des intellectuels, qui posent toujours des questions et qui veulent avoir des réponses. Et il se sent maintenant sur une nouvelle piste. Et jusqu'à l'événement de la tour, il va découvrir l'événement de la tour. Bon, je dis les choses un peu platement. Il est à la toilette et tout d'un coup, il a une idée. Donc, quand vous allez à la toilette, n'ayez pas peur, on a parfois des très bonnes idées. Bon, on dit l'événement de la tour. Ça fait mieux, quoi. Mais Louis était dans la tour. Je ferme la parenthèse. Donc, il comprend tout d'un coup, mais il a fallu 2 ans, entre 1513 et 1515, de manière nouvelle pour lui, le sens de Romains 3:28, c'est-à-dire « le juste vivra par la foi ». Et donc, troisième point, la piété de Staupitz ne pouvait pas convenir aux sentiments religieux de Luther, parce qu'il lui présentait un Dieu trop bon comparé au Christ de l'époque qui était des cris de souffrant, qui avait l'air très grand, très divin, très très compliqué. Le Dieu de Staupitz était trop passif. Et qu'est-ce que Luther voulait, ou de quel Dieu rêvait-il? Il rêvait d'un Dieu vivant, un Dieu qui prend l'initiative, un Dieu qui réagit au mal. Et alors on comprend pourquoi Luther accordait beaucoup d'importance à Augustin, chez qui il trouve le même type de Dieu actif, dont la grâce est une force qui agit. Staupitz, lui, mettait l'accent sur un Dieu qui pardonne, qui supporte, qui souffre, qui excuse. C'est pas interdit, mais ça ne convenait pas à Luther. Il essayait de transmettre à Luther sa propre spiritualité. Il ne faut jamais faire ça. Qu'est-ce que l'autre cherche ? Le quatrième point, la réflexion de Luther peut être qualifiée de théologie mystique, au sens où elle est une réflexion sur son expérience spirituelle, c'est-à-dire elle est une réflexion sur sa relation personnelle avec Dieu. Il réfléchit, il voudrait mieux comprendre. Et le courant de mystique nominaliste qui séparait la raison et les sentiments, donc on nommait les choses, mais c'était autre chose que de les vivre. L'auteur avait beaucoup fréquenté un certain Gabriel Bim, mais on attribue à Staupitz la première initiation mystique de Luther, le thème de la conformation au Christ que Dieu imprime en nous, entre autres par la souffrance. Mais c'est d'abord la conformation au Christ, pas d'abord les actions. Et alors Luther a commencé à fréquenter beaucoup d'auteurs, par exemple Saint Bernard, Denis l'Areopagite, Gerson, qui était un prédicateur écrivain français avec qui il sera ami. Denis l'Areopagite, c'est un théologien mystique inconnu dont on a mentionné les œuvres au début du VIe siècle. Tauler, un mystique allemand, un dominicain, qui est un élève de Maître Eckhart, peut-être moins intellectuel, qui s'appuyait beaucoup sur l'abandon de la volonté à Dieu. Alors, il est l'auteur de 83 sermons, publiés pour la première fois en 1498. Donc, si vous avez envie de lire tous les sermons de Todd, ils existent. Alors, un autre courant aura de l'influence sur Luther, ce qu'on appelle la dévotion moderne. Ce n'est pas une influence décisive, mais c'était une dévotion marquée par un climat de piété fervente et affective. Et dans ce moment de recherche qui caractérise l'expérience personnelle de Luther, peut-être que Staupitz était trop simple. Pour lui, il n'y avait pas de problème. On aime Dieu et on fait ce qu'il demande. Donc Staupitz ne s'est pas rendu compte de l'énorme impact qui s'était passé chez Luther et qui naissait en lui. Peut-être qu'il aurait pu discuter avec lui et faire en sorte que la réforme ne se passe pas. Luther était seul avec ce qu'il découvrait. Et donc, certains auteurs disent que leur relation était ambiguë à cause de leur tempérament différent. Ils s'entendaient bien, mais au niveau de la réflexion, ce n'était pas le même chemin. Par exemple, et nous connaissons certainement des gens comme ça, Luther n'acceptait que ce qu'il avait lui-même trouvé et ressenti. N'acceptait pas, comme son supérieur, le professeur, d'accepter ce que les mystiques lui disaient. Il fallait d'abord qu'il le ressente et qu'il le trouve. Et puis, une fois qu'il l'avait ressenti, il avait besoin de l'exprimer, mais dans une bonne théologie. Pas simple. Il devait pouvoir recevoir quelque chose alors qu'il pouvait comprendre, donc quelque chose de totalement extérieur à lui, ça passait pas. Il fallait que ce qu'on dit se rejoigne quelque chose en lui. Et ce fait était lié à l'authenticité qu'il exigeait pour lui-même, et ça veut dire qu'il absolutisait un aspect de la réalité, son expérience. Ça c'était premier. Et cette expérience confrontée avec l'écriture. Et que avec l'écriture. Et donc il risquait de forcer sa vision des choses et puis de généraliser. Alors, sur ce plan, Staupitz ne pouvait pas lui être d'un très grand secours, car il s'accommodait très bien des grands courants spirituels et trouvait une manière de comprendre son expérience en lisant ce que des mystiques disaient sans se tracasser s'ils étaient des intellectuels, des grands mystiques ou des petits mystiques. Il prenait ce qu'il pouvait manger. Alors, Henri Stroll, qui a écrit un livre sur Luther, dit ceci. Les éléments de la pensée de Luther sont vécus et fondés sur une expérience d'une rare profondeur et d'une puissance irrésistible. C'est un homme qui était très, très vif et très profond. Très fort aussi et parfois embêtant, évidemment. Le contact personnel avec Dieu vivant faisait vivre l'âme du réformateur. Il renouvelait en lui la foi, lui donnait des ailes et lui faisait prendre son vol. Et on peut appliquer à Luther le principe de l'école franciscaine. Deux points. Il faut aimer pour comprendre. Il faut aimer pour comprendre. D'autres diront non, 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 il faut comprendre pour aimer. Il faut aimer pour comprendre. D'où le mot de Goethe, beaucoup plus tard, ce que vous ne ressentez pas, vous ne le saisirez pas. C'est une question de tempérament. Alors, celui qui se pénètre des principes fondamentaux de Luther et qui lit ses ouvrages est à même de prévoir à l'avance les moments d'exaltation de son âme. Par exemple, on raconte quand il enseignait et que ce qu'il enseignait le touchait, c'était 10 fois mieux que lorsqu'il enseignait le programme apposé. L'idéal, c'est que les deux soient enseignés de la même manière. Chez lui, ça ne marchait pas comme ça. Et donc, s'il n'y avait pas ce cri du cœur, alors il avait, dit Stroll, des passages où le ton était plus doctrinal et plus détaché, car le professeur reproduisait des données doctrinales, même scripturaires, mais qui n'avaient pas fait l'objet de son expérience essentielle. C'est à la fois sa force et sa faiblesse. S'il ne peut vivre que ce qu'il comprend et qu'il ressent, à un moment donné, ça n'ira plat. Mais c'est une clé pour comprendre l'œuvre de Luther, qui, alors, dans le protestantisme, dans quelques années plus tard, va aussi prendre cette orientation. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exprimer ses expériences et ses découvertes, Luther avait toujours besoin d'un instrument intellectuel. Et donc le nominalisme, donc, qui nomme les choses en les séparant des sentiments, avait une grande influence sur sa pensée. Adolphe Guéchet, qui était professeur de dogmatique à Louvain-la-Neuve, apporte un éclairage intéressant sur ce point, parce qu'il montre que le nominalisme, qui est une philosophie du singulier, donc pour le nominalisme, il n'y a que le singulier, il n'y a pas d'humanité, ça n'existe pas, il n'y a que des hommes que je vois. Donc toute l'abstraction n'existe pas. Il n'y a que ce que l'on peut voir, ce que l'on peut remarquer. Et donc, c'est le contingent qui est intéressant. Par exemple, disait Guéché, je peux parler de âme, mais je ne parle pas d'une femme. Je parle de telle femme. Et donc c'était toujours très précis. Et c'était évidemment pour Luther une manière intéressante de dire son expérience. Alors le point d'ancrage qui a poussé Luther à une telle expression, c'est exclusivement sa référence à l'écriture. Et les conséquences ont été révolutionnaires parce qu'elles ont conduit au déclenchement de la réforme. Je vous en dirai un mot après. Luther refusait de penser que Dieu pouvait parler dans le pape. Dieu parle dans l'écriture, mais pas dans le pape. Le pape peut s'appuyer sur l'écriture, mais Dieu ne parle pas en lui. Pour Luther, c'est impossible. Et donc, Staupitz, lui, ne cherchait pas une expérience aussi personnelle. Il croyait ce qu'on lui disait, que ce soit le pape, l'écriture ou un roman. Et donc, il ne pouvait plus guider Luther. Alors, deux petites remarques de conclusion, puis je lirai à nouveau l'autre texte. Première conclusion, étant donné le caractère excessif de Luther, on peut se demander s'il a ressenti l'influence de Staupitz telle qu'elle a été. Et certains auteurs disent qu'elle est peut-être apparue comme la seule bouée de sauvetage alors qu'il était désespéré. Il a trouvé quelqu'un qui l'écoutait, qui ne faisait pas la leçon. Et donc, certains seraient tentés de nuancer le rôle. Par exemple, l'auteur Stroh, dont j'ai cité la référence tantôt, dit en fait, les premiers biographes de Luther, Mélenchon, Malthusius, ne mentionnent pas Staupitz, comme s'il n'avait pas existé, ce qui est faux. Staupitz a une énorme influence sur Luther, parce qu'il l'a libéré de ses peurs. Mais une fois qu'il était libéré, il n'avait plus besoin de Staupitz. Staupitz a finalement dû quitter l'ordre des Augustins, parce qu'il était trop bon et il a terminé sa vie comme bénédictin. Mais Luther ne lui a plus parlé. Et alors, il y a un jugement peut-être un peu exagéré de Luther sur Staupitz. Après la mort de Staupitz, qui était mort en 1523, et Luther écrit ceci à un ami: je te renvoie Staupitz, petit texte. Il est terne comme il l'a toujours été et manque de vigueur. Pas très gentil. Fais ce qui te semble bon. Ce livre n'est pas indigne d'être publié, puisqu'on imprime et convainc journellement tant de monstruosités. Il fallait mieux être l'ami de Luther. Alors, deuxième chose, il serait intéressant de prolonger la réflexion et la recherche en étudiant de près l'évolution de Staupitz après l'excommunication de Luther. On va regarder cette vie de Luther dans un moment. Mais les protestants sont très souvent minimalistes à propos de l'influence du supérieur sur le futur réformateur. On n'en parle pas beaucoup. Donc on n'a pas tellement de choses sur Staupitz, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Alors, je vous propose de regarder un moment la feuille avec la biographie. Et puis je dirai un mot du Concile de Trente. Et sur les conciles. Alors, quand on voit, donc Luther est né en 83, Zwingli était un protestant qui est devenu son grand ami. Arrive l'affaire des indulgences. Rome a besoin d'argent pour construire la basilique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que les gens donnent de l'argent. Mais on ne donne pas de l'argent si on n'a rien en retour. Donc, on va leur faire acheter des indulgences. Par exemple, une indulgence qui leur permettait d'éviter les 400 jours de purgatoire qu'on a dit qu'ils auraient. Autant d'argent était encore plus. Et donc, l'argent rentrait mais d'une manière absolument incroyable. Ce qui a mis Luther en rage, parce qu'il dit, mais c'est honteux, ça n'a rien à voir avec l'écriture, c'est de nouveau le pape qui recommence, ça va pas ça. Et donc, il va afficher une série de propositions, dont je vais vous en lire une ou deux. Attendez. Vous savez, je perds toujours mes feuilles. Là. Donc Luther a affiché sur l'église sa réaction et a demandé à son prince de transmettre ça dans d'autres églises. Alors j'ai ici une page, j'en avais 90, j'en ai pris ici une page avec une vingtaine, je vais vous en lire quelques-unes. C'est chaque fois des phrases dont il contestait la réalisation. Alors par exemple, le pape fait très bien de ne pas donner aux âmes le pardon en vertu du pouvoir des clés qu'il n'a pas et de le donner par le mode de suffrage. Il prêche des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Donc plus vous mettez de l'argent, au plus vite l'âme de votre ami ou de la personne qui est morte partira du purgatoire. Et l'argent venait par dizaines de milliers de florins. Un florin à l'époque, c'est 36 000 francs belges. J'ai été vérifié, c'est un florin d'or. Hein. Alors, qui sait, dit Luther, si toutes les âmes du purgatoire désirent être délivrées? Parce qu'on est forcé, puisqu'on payait. Il dit, mais elles n'ont peut-être pas envie, elles sont aidées au purgatoire. C'est de nouveau pour avoir de l'argent. Et donc, attendez, où est-ce que j'en suis? Témoin de ce qu'on rapporte de Saint Séverin, de Saint Paul Pascal. C'était deux saints qui avaient été, dit-on, délivrés et passés au purgatoire parce qu'on avait donné beaucoup d'argent. Alors, nul n'est certain de la vérité de sa contrition. Encore moins peut-on l'être de l'entière rémission. Il est aussi rare de trouver un homme qui achète une vraie indulgence qu'un homme vraiment pénitent. Donc, mettez-vous à la place des gens, on achetait des indulgences, comme on va acheter un kilo de pommes de terre. Et l'argent était énorme, parce qu'il fallait évidemment construire le palais du pape. Et donc, Luther fait une autre proposition, ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. Donc ils recevaient une lettre, voilà, vous avez donné 40 000 francs, vous aurez le droit de supprimer 500 jours de purgatoire. Et comment est-ce que ça peut marcher? Luther était furieux. Et alors, il prêche une doctrine antichrétienne. Ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du purgatoire, ou pour obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas nécessaire. Alors là, vous voyez Luther qui disait d'abord la contrition, l'amour et puis les œuvres. Ici, on n'a pas besoin, de contrition, il suffit qu'on paye. Alors, ça le mettait vraiment en rage. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de peine et du péché, même sans lettre d'indulgence. Donc, il commence à se faire mal voir parce qu'il conteste ce que le pape est en train de faire, et publiquement. Tout vrai chrétien, vivant ou mort, participe à tous les biens du Christ et de l'Église, par la grâce de Dieu et sans lettre d'indulgence. Alors, la vraie contrition recherche et aime les peines. L'indulgence, par sa largeur, en débarrasse et à l'occasion les fait haïr. Alors, de temps en temps, il faut quand même caresser le pape dans le sang du poil. Il faut prêcher avec prudence les indulgences du pape, afin que le peuple ne vienne pas à s'imaginer qu'elles sont préférables aux autres bonnes œuvres de la charité. Donc si vous payez le pape et que vous avez des indulgences, il ne faut plus être charitable. De quoi être en rage. Alors, je le prends comme un dernier. Cette carte parle, il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. Ça, c'est insupportable pour tous ces richards qui n'attendaient qu'une chose, c'est d'avoir de l'argent. Car par l'exercice même de la charité grandit et l'homme devient meilleur. Les indulgences, au contraire, n'améliorent pas, elles ne font qu'affranchir de la peine. Donc on fait croire qu'on sera sauvé. Et donc, ça ne va pas. Donc voilà quelques-unes. Alors j'en ai, donc il y avait 4 pages comme ça, c'était écrit en tout petit. Alors vous imaginez que ça n'a évidemment pas plu aux évêques, aux papes, et donc Luther est frappé d'anathème, on dit non, c'est plus un chrétien, c'est plus possible. Alors il quitte son ordre et il épouse une ancienne religieuse qui s'appelait Marguerite Bora. Il aura 6 enfants, dont 4 mourront très jeune, et au point de départ, il ne voulait pas se marier, il cherchait une femme pour un ami. Et pour finir, elle était amoureuse de lui, et ils se sont mariés. Et ils furent, disent les textes, un excellent couple. Alors, au même moment, en Angleterre, Henri VIII rompt avec l'Église catholique romaine, en 1533. Et alors, je ne peux pas ne pas signaler une fondation très importante pour l'Église, en 1537, fondation de la Compagnie de Jésus, sans laquelle nous ne serions pas ici. Alors, le Concile de Trente va s'ouvrir, mais ça va durer un temps fou, et il y aura encore des massacres des Vaudois, et là, ce sont les chrétiens. Comme je vous disais la semaine passée, les chrétiens vont massacrer les donatistes. Ici, c'est la même chose. Les chrétiens vont massacrer les Vaudois. Donc, chacun à son tour, quand il devient fort, massacre les faibles. Luther meurt en 1546, sa femme 5 ans après. Alors apparaît du côté du protestantisme anglican le premier livre de prière. Le Concile de Trente doit un peu attendre parce que les évêques ne sont pas tous là. Alors ça dure, attendre, ça veut dire 6 ans. La clôture du Concile de Trente, je n'entre pas dans les détails ici. C'est un concile qui va durer 12 ans, avec des arrêts, des reprises, mais ils vont apporter, je l'ai vu dans un moment, un renouveau grâce à Luther. Ils vont redire et réexpliquer mieux des points importants de la foi chrétienne. De nouveau, le massacre de Saint-Barthélemy, c'est les chrétiens qui tuent les protestants. Et enfin, l'édit de Nantes va enfin laisser la liberté pour toutes les religions, y compris les protestants. Alors, je termine par un petit mot. Les conciles modernes de l'Église catholique, donc vous avez une liste de tous les conciles, hein, vous l'avez reçu, je ne vais pas... tous les conciles qui ont existé. Vous voyez qu'au milieu, il y en a une série qui était des faux conciles. Et donc, on n'en tient pas compte. Ce qu'ils ont dit, on n'en tient pas compte. Donc, c'est les conciles où je remets 1, 2, 3. Le concile de Latran, ça va. Et alors, après l'affaire de Luther, c'est le concile de Trente que le pape Paul III va vouloir commencer. Les huit premières sessions ont été à Trente, de 45 à 47. Les autres en 1548. Les autres encore plus tard, jusqu'à 51-52. Par le pape Jules III, et puis le pape Pie IV terminera le concile en 63. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté des décisions dogmatiques. Jusqu'à présent, la théologie, la pensée chrétienne n'était pas très claire. Et donc, ils ont réfléchi sur l'écriture. C'est quoi l'écriture sainte? Et deux sera alors, approfondir l'idée. On ne vit pas que de l'écriture, mais aussi de la tradition, c'est-à-dire la manière dont les siècles précédents ont vécu l'écriture. Luther ne voudra pas la tradition et gardera l'écriture toute seule. Le péché originel, la justification, la doctrine catholique sur le sacrifice de la messe, les sacrements, le culte des sœurs, et alors toute une série de décrets. Alors, je vous ai mis simplement pour info, Vatican I apparaîtra bien après, oui, entre le Concile de Trente, Pie IX va faire 4 sessions. On va définir la doctrine catholique de la foi, mais confirmer la primauté du pape et définir son infaillibilité. Alors ça embêtait toute une série de pères du Concile qui sont partis, parce qu'en fait, le pape, à l'époque, avait beaucoup de terrain, de pays. Et donc, je crois que c'était, comment est-ce qu'il s'appelait le président? Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est plus un nom. Le président italien, ça va revenir après. Non, un autre. Enfin, peu importe, ça va revenir. Ils prennent les terres du pape. C'est pas Mussolini, c'est pas Mussolini?
Non,
c'est un autre, c'est un autre. Bah, c'est un reviendra.
Italienne qui est
non, c'est pas Garibaldi. C'est pas... Bah, vous voyez, celui qui va reprendre les terres qui appartenaient au Vatican, mais le pape n'a plus aucun pouvoir. Non.
C'est Garibaldi.
Oui, non, c'est pas Garibaldi.
C'est les troupes italiennes, c'est pas Garibaldi.
Non, oui, c'est ça. Et donc, le pape n'a plus de terres. Or, c'était très important, et il va remplacer les terres qu'il perd pour avoir du pouvoir par son infaillibilité. Alors, ça a créé beaucoup de débats et de discussions, et l'infaillibilité du pape est très réduite. L'être en manière catholique, il faut fonder. Donc, il y a 3 petites raisons qu'on n'a presque jamais. Et donc, c'était une manière de pouvoir rattraper un pouvoir qu'il n'avait plus. Il n'avait plus le pouvoir d'être un grand propriétaire, mais il avait le pouvoir de pouvoir décider si quelqu'un était valable ou non. Alors vous voyez, il a encore fallu attendre presque 40 ans. Vatican II va promulguer des constitutions qui vont revoir la liturgie, la pastorale, et qui vont aussi, d'une manière très curieuse, une déclaration sur la liberté religieuse. Vous n'êtes pas obligé d'être chrétien, ce qui n'a pas été accepté par certains. La déclaration sur les religions non chrétiennes, il y a des religions non chrétiennes, en particulier le peuple juif, et alors le décret sur l'écuménisme. Ça, c'est une énorme ouverture qu'on n'imaginait pas que ça puisse arriver au XVIe siècle. Voilà. Je pense que j'ai encore 5 minutes, mais je vais arrêter ici. Merci pour votre attention. Merci.